Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous persévérant? Finissez-vous un travail que vous avez commencé? Un travail, un projet, n'importe. Êtes-vous vraiment patient dans tout ce que vous faites? Avec courage, avec une attitude positive? Beaucoup de fois, vous commencez une chose et ensuite, ça ne vous plaît plus, vous vous découragez et vous l'abandonnez. Mais, voyez-vous, la chose la plus importante dans une réussite, c'est toujours la persévérance. Mais qu'est-ce que la persévérance? Que faut-il appeler persévérance? Que faut-il entendre par persévérance? Est-ce que la Bible en parle? Eh oui. Du reste, c'est la condition principale que le Christ nous a donnée pour montrer que le royaume de Dieu est pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Je dis bien la condition principale. Cela vous étonne-t-il? Notez-le. Dans Matthieu, chapitre 24, le grand chapitre où il a décrit, en ce qui concerne le Christ, a décrit les prophéties de la fin, il a dit au verset 13, Matthieu 24, 13, « Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. » Regardez cette condition. Donc, le salut, évidemment, ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, non. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes, non. Mais il y a quelque chose que nous devons faire dans tout cela. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux, lorsque Dieu nous ouvre l'esprit, la compréhension, l'intelligence, il y a une chose que nous devons faire, la persévérance. Aller jusqu'au bout. Je connais des gens qui entendent la vérité et ça les touche, ça les intéresse, mais ils ne veulent pas continuer. Il y a des conditions, certes, ils ne sont pas d'accord ou bien ça demande trop d'efforts, je ne sais quoi. De toute façon, pour une raison ou pour une autre, ils abandonnent. L'abandon ne doit jamais faire partie de la persévérance. Ce n'est pas possible. Parce que dès que vous abandonnez un projet, un travail, il n'y a plus de persévérance. Rappelez-vous bien, le salut ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par l'observance des lois, mais nous serons sauvés par l'aide du Christ, mais si nous persévérons jusqu'à la fin. Ça, c'est très important, voyez-vous. Mais, à nouveau, comment définir ce mot persévérer? Eh bien, on peut prendre un dictionnaire si vous voulez. C'est persister, faire preuve de ténacité, durer, endurer, et faire preuve de patience, évidemment. La Bible parle souvent de la persévérance, et la Bible nous montre comment y arriver. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul, qui lui a fait preuve de persévérance jusqu'à la fin, parce qu'il fallait, voyez-vous, lorsque vous êtes face à une épreuve, vous avez un choix. Abandonner, vous décourager, vous dites « je n'en peux plus », ou alors vous redresser, avoir une attitude positive, faire face aux difficultés et dire « oui, je vais aller quand même de l'avant ». Voilà le choix. Vous direz « mais je n'ai pas la force nécessaire ». Si, vous avez la force nécessaire car vous avez l'aide de Dieu. Mais ce qui vous rend un peu hésitant, c'est que, voyez-vous, la force nécessaire demande des efforts de votre part. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que de pousser, de travailler. Et c'est là, vraiment, ce que le Christ nous dit dans la Bible, à travers la Bible, que nous devons persévérer dans tout ce que nous faisons jusqu'à la fin pour être sauvés. Dans 2 Timothée chapitre 2, disais-je, l'apôtre Paul, qui a fait preuve de beaucoup de persévérance, donne des conseils à Timothée. Du reste, les épîtres de Paul à Timothée, ce sont des conseils qu'il donne à Timothée en tant que ministre et à nous tous. Regardez ce qu'il dit. De Timothée chapitre 11, chapitre 2, verset 11, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec le Christ, avec Christ, avec lui, nous vivrons avec lui aussi. Donc, voyez-vous les conditions. Si nous acceptons le sacrifice du Christ, et si nous comprenons la raison pour laquelle il est mort, Si nous sommes morts, dit-il, avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, voyez-vous, nous régnerons aussi avec lui. C'est la même chose que le Christ a dit lorsqu'il a dit « Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés ». Donc, le Christ a persévéré. Il n'a jamais abandonné. Sur cette terre, on l'a persécuté, on l'a blasphémé, on l'a blâmé, tout ce que vous voulez, mais il a toujours tenu bon. Il a persévéré. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Si nous persévérons avec lui, eh bien, nous serons victorieux. Si nous le renions, par contre, et lorsque vous abandonnez un projet, vous reniez, on se dit-il, il nous reniera. Par contre, dit-il, si nous sommes infidèles, ce qui est tout à fait négatif, lui, dit-il, demeure toujours fidèle. Cela vous prouve la bonté de Dieu qui est toujours là pour nous aider. Mais prenez votre exemple personnel dans tout ce que vous faites. Si vous commencez un projet, comme j'ai dit, est-ce que vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, ou bien est-ce que vous abandonnez lorsque les problèmes arrivent? Car les problèmes arriveront toujours. Aucun projet ne peut être réussi sans qu'il y ait des épines, c'est normal, et sans qu'il y ait des difficultés. Votre talent, votre mérite, c'est de faire face à ces difficultés et d'aller de l'avant avec l'aide que Dieu vous donne. Regardez voir ce que le monde, d'une façon générale, construit autour de nous. C'est grande construction, mais ça demande des efforts. C'est gratte-ciel, ces appareils fantastiques que les hommes construisent aujourd'hui. Ce sont des projets énormes, mais ces projets demandent la persévérance. Et c'est cela dont nous parlons, surtout lorsqu'il s'agit de persévérer dans tout ce qui est essentiel dans la vie. Pour revenir à l'apôtre Paul, regardez ce qu'il a dit. Encore dans Actes, chapitre 14, ce sont, voyez-vous, des paroles claires, tout le monde peut comprendre, mais ce sont des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Du reste, il y a quelques jours, quelqu'un m'a écrit en disant, écoutez, monsieur Appartient, comment est-ce que je peux vraiment faire face à mes problèmes? Ces problèmes sont trop durs. Je ne peux pas vraiment continuer à lutter. Mais si, mais si, mais si. Vous pouvez continuer à lutter. C'est ça le problème. La plupart des temps, les gens abandonnent. N'abandonnez jamais. Dès que vous abandonnez quelque chose, c'est l'échec. Donc, pour réussir dans la vie, faites face à l'échec avec la persévérance dans le projet que vous avez commencé, dans le travail que vous faites. Actes, chapitre 14, verset 19. Actes, chapitre 14, verset 19. Alors survinrent à Antioche, des grands, etc., des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, regardez voir, un apôtre de Christ, vous direz, mais est-ce que le Christ ne l'a pas protégé? Si, le Christ l'a protégé. Mais le Christ a aussi permis à ce que les autres attaquent Paul, le fassent souffrir. Mais parce que le Christ savait qu'il allait toujours protéger Paul. Ici, vous avez Paul presque mort. Vous allez voir, les gens le traînèrent dans la ville, pensant qu'il était mort. À ce point-là, Paul souffrait. Donc, ce même Paul, là, ensuite, les gens le voient que le Christ l'a quand même protégé. Lorsqu'il revient vers les siens, regardez ce qu'il dit. Je prends maintenant la moitié d'un verset. Verset 11, 12. Donc, il retourne et il vient donc dans une ville. Ensuite, il exhorte, verset 12. Voilà, Actes 14, 12. C'est Paul qui exhorte à persévérer dans la foi. Regardez voir ça. Il est lapidé, il est presque mort. Il exhorte les autres à persévérer dans la foi. C'est pas facile. Vous et moi, nous avons des difficultés à persévérer dans notre travail. Mais après avoir souffert, si nous devons encore aider les autres à persévérer, voilà le courage. Et ce courage peut seulement venir de Dieu. Donc l'apôtre Paul a persévéré dans la foi en disant que voilà maintenant la condition. C'est pas beaucoup de tribulation que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulation. Pas quelques petites tribulations. Donc, lorsque vous pensez au christianisme d'une façon générale, à votre devoir d'une façon générale, dites-vous vous-même, je dois persévérer jusqu'à la fin, quels que soient les problèmes, les difficultés, les circonstances. Parce que c'est Dieu qui vous donne la force. Et ayant ça en tête, vous pouvez aller donc face aux tribulations, face aux persécutions, avec courage, car comme Dieu a fait avec l'apôtre Paul, il agira de même pour vous et pour moi. Commencez-vous à comprendre cette ténacité, ce désir. Vous savez, un sportif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut gagner quelque chose dans une compétition. Bon, mais dès le moment qu'il abandonne la course, c'est l'échec, c'est fini. La vie chrétienne est une course, comme l'apôtre Paul l'a aussi défini. C'est une course que nous faisons tous. Dans cette course, il n'y a pas de place pour l'abandon. Si vous abandonnez, vous êtes laissé derrière. Les autres avancent. Dans cette course, quels que soient nos problèmes, nos difficultés, nos handicaps, nous devons continuer. Et c'est ainsi que nous devons arriver à la ligne d'arrivée. Et nous sommes tous, voyez-vous, en tant que chrétiens, destinés au royaume de Dieu. C'est là la ligne d'arrivée. Nous ne pouvons pas abandonner avant la ligne d'arrivée. Et pour arriver à cette ligne, nous devons faire face à des difficultés, des persécutions, comme l'apôtre Paul dit, des tribulations. C'est intéressant car c'est comme ça la vie. Mais dans tout ce que vous faites, si vous avez vraiment le courage de réussir dans votre vie, dans un projet que vous entreprenez, quelles sont les conditions? Travail dur, certes, mais persévérer. Les plus grands inventeurs en ce moment ont réussi parce qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont persévéré jusqu'à arriver au point de succès. On parle d'Edison, ça, Edison qui a inventé toutes sortes de choses. Mais lisez la vie d'Edison. Il a dit, chaque fois, disait-il, je suis face à des problèmes, difficultés presque impossibles à résoudre. Mais il dit, j'ai continué jusqu'à la réussite. C'est exactement ce que vous et moi nous devons faire. Continuer, continuer, continuer jusqu'à la réussite. Je répète, la différence entre l'échec et la réussite, c'est justement la persévérance. Si vous faites preuve de persévérance, vous ne connaîtrez jamais l'échec, parce que vous continuerez jusqu'au bout. Tandis que si vous abandonnez, c'est déjà l'échec, sans même avoir atteint le but. L'apôtre Paul, je viens toujours à l'apôtre Paul, car voyez-vous, il nous donne beaucoup d'exemples, beaucoup d'idées de sa vie personnelle même. Il nous dit que sans la persévérance, dit-il, nous ne pouvons pas arriver au but, tout comme le Christ l'a dit. Il dit, nous devons donc faire quelque chose. Notez-le, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, Paul, du reste, Romains chapitre 8, comme je vous ai souvent dit, c'est un chapitre magnifique. Car dans ce chapitre, vous avez presque tout l'évangile. Vous avez le but de la vie, la raison pour laquelle nous sommes nés, ce que Dieu attend de la part de nous, quel est le but final, quelle est la récompense finale. Et ensuite, comment le Christ nous aide, comment le Christ nous prie. Tout ça, c'est dans Romains 8. Alors, dans Romains 8, il dit au verset 24, Romains 8, regardez voir ces conditions. Verset 24. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Regardez voir ça. C'est quoi l'espérance? L'espérance dépend de la persévérance. Si vous avez l'espérance, vous ne pouvez pas abandonner. Car dans ce cas-là, ce ne sera plus l'espérance. Donc, l'espérance demande automatiquement de la persévérance. Il dit, c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance si, parce que l'espérance qu'on voit n'est pas espérance, car ce qu'on voit, dit-il, peut-on encore espérer? Autrement dit, si vous avez quelque chose, il n'y a plus raison d'espérer parce que vous l'avez déjà. Pour le moment, nous n'avons pas encore, je dirais, la victoire finale. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Nous espérons y être. Mais avec cette espérance, nous devons persévérer jusqu'à la fin et nous devons avoir toujours cette attitude que nous sommes en train de lutter pour y arriver. Cette espérance doit être accompagnée par la persévérance. Or, dit-il, l'espérance, verset toujours 24, Romains 8, « Or, l'espérance, dit-il, qu'on voit n'est pas espérance, et ce qu'on voit, peut-on encore espérer, dit-il, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce ne sont pas des phrases, je dirais, banales. Ce ne sont pas des phrases légères. Autrement dit, vous et moi, nous attendons le royaume de Dieu. Mais comment l'attendons-nous? C'est l'espérance. Mais cette espérance demande quoi? La persévérance. Persévérance contre quoi? Contre qui? Contre toute adversité. Et l'adversité est prédite dans la Bible, que nous aurons des tribulations. Si nous espérons, et nous devons espérer que nous serons un jour dans le royaume de Dieu, nous devons persévérer. Nous n'avons pas encore vu ce royaume. Nous ne sommes pas encore là, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais nous avançons avec l'espérance, avec la persévérance, car nous savons que le Christ ne va jamais nous abandonner. Commencez-vous à comprendre. Il y a une différence entre l'espérance et la foi. Là encore, l'apôtre Paul définit, la foi c'est quelque chose que vous l'avez déjà. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est quelque chose que vous avez déjà. C'est la détermination, la connaissance, l'assurance même de ce que vous espérez. Autrement dit, comme Paul l'a dit, vous ne pouvez pas espérer quelque chose si vous l'avez déjà. Mais la foi, c'est la compréhension, l'assurance, la démonstration, l'évidence même de ce que vous espérez. Je répète, il y a l'espérance de notre réussite. Ensuite, la foi, cette condition absolue que nous réussirons, et tout ça dépend de notre persévérance. Car qu'est-ce que c'est que la foi? Si je ne peux pas persévérer dans la foi, je n'ai pas foi. Si je ne peux pas persévérer dans l'espérance, je n'ai pas d'espérance. Commencez-vous à comprendre? C'est beaucoup plus important, mes frères et mes sœurs, ce sujet de persévérance que vous ne pensez. Et ça, vous pouvez déjà commencer dans votre vie personnelle, individuelle, dans le travail que vous faites, dans vos rapports avec les autres, dans tout ce que vous entreprenez. Soyez sûr que vous voulez vraiment terminer. Autrement dit, à quoi bon commencer un travail, un projet que vous aimez, qui vous plaît, et ne pas aller jusqu'au bout? C'est là, malheureusement, le problème avec beaucoup de gens qui ont, je n'ai pas accepté, mais qui ont entendu la vérité. Que ce soit par la radio, que ce soit par les écrits que nous avons, la télévision, ils apprennent, ils connaissent, mais ils ne persévèrent pas. On n'avait qu'à vérifier ou bien lire les paraboles que le Christ a données. La semence qui tombe sur un sol qui n'est pas fertile. Vous et moi, nous devons être un sol fertile. Et le sol fertile ne peut seulement produire que si nous faisons preuve de persévérance. Notez Abraham. La Bible parle souvent d'Abraham, parce que la Bible parle des qualités d'Abraham. En premier lieu, Abraham est un croyant, le père des croyants, comme la Bible dit. Mais on ne peut pas être le père des croyants, bien croire, si on abandonne. Abraham n'a pas abandonné. Vous allez voir les qualités que l'apôtre Paul montre chez Abraham dans Hébreux chapitre 6. Ce sont peut-être des choses qu'on n'a pas notées auparavant, mais ce sont des choses essentielles qui nous sont indispensables pour comprendre ce sujet. Hébreux chapitre 6. Donc avant de venir à Abraham, regardez voir comment l'apôtre Paul définit ce dont nous avons besoin. Je prends un verset toujours. Prenons encore la moitié d'une idée. Verset 11. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre, dit-il, le même zèle. Regardez voir. Vous ne pouvez pas avoir du zèle si vous abandonnez. Le zèle dépend aussi de persévérance. Et nous désirons que vous ayez donc le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Voyez-vous, là encore, c'est la même condition. Jusqu'à la fin, une pleine espérance. En sorte que, dit-il, vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la croix et la persévérance, héritent des promesses. Intéressant. Abraham a hérité des promesses. Les prophètes ont hérité des promesses. Vous et moi, nous hériterons des promesses si nous persévérons dans la foi et dans l'espérance. Et par nos actes, évidemment, par notre attitude. Je répète et je répéterai, vous ne pouvez jamais arriver à un but quelconque si vous abandonnez avant d'y arriver. C'est une vérité de la palisse, je sais. Mais souvent, malheureusement, nous l'oublions et puis nous abandonnons. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes membres de l'Église de Dieu. Vous êtes baptisés. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Or, avant d'être baptisés, quelles ont été les conditions qu'on vous a exposées? Laissez-moi les montrer. Dans Luc chapitre 14, un ministre de Dieu vous a dû expliquer ce que c'est que le baptême, la raison pour laquelle vous vous faites baptiser. Ensuite, probablement, du reste, je dirais, il devrait vous montrer les conditions du baptême. Luc chapitre 14. Le Christ a dit, si quelqu'un, verset 26, si quelqu'un vient à moi et n'aime pas, c'est la traduction exacte, n'aime pas son père, aime son père, sa mère, etc., plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, c'est le sens du mot haïr, parce que c'est une traduction qui n'est pas vraiment correcte en français. Mais en fait, dit-il, et quiconque ne porte pas sa croix, autrement dit, vos problèmes, vos souffrances, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire quoi? Donc, si vous suivez le Christ, quelle que soit votre croix, les souffrances, vous devez poursuivre. Vous ne vous arrêtez pas devant un obstacle. Un obstacle ne doit jamais être pour vous un sujet d'arrêt. Pas du tout. Ensuite, le Christ donne un exemple frappant. Voilà les conditions que vous auriez dû mesurer, accepter avant votre baptême. Et si vous n'êtes pas baptisé, vous qui m'écoutez, tâchez de comprendre. Le baptême est un engagement que vous prenez. Un engagement dans lequel il n'y a pas de recul. Le baptême est une condition que vous allez jusqu'au bout, à l'avant, quels que soient les obstacles, vous persévérez. C'est un projet que vous commencez. Et le Christ montre ici, par un exemple frappant, et qui montre que nous devons aller jusqu'au bout. Il dit, verset 28, Luc 14, verset 28, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. » Voilà. Vous savez, je dis souvent, quand je parle aux gens qui viennent devant des conseils, je dis, écoutez, avant de commencer quelque chose, calculez la dépense. Autrement dit, mesurez, projetez le pour et le contre. Si c'est au-dessus de ce que vous pouvez le faire, ou bien votre cœur n'y est pas, ne faites pas, ne commencez pas. Mais si vous avez vraiment calculé la dépense, si vous êtes prêt à vraiment donner votre vie pour réussir dans un projet, vous réussirez. Le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est un engagement que vous prenez pour aller jusqu'au bout, quels que soient les problèmes. Voilà pourquoi le Christ a dit, calculez des dépenses. Vous perdrez peut-être votre vie, oui. Peut-être vous aurez des ennemis, oui, plus que d'habitude. Peut-être les gens, vos amis vous abandonneront, peut-être, c'est possible. Mais tout ça, c'est une partie de l'engagement que vous avez pris. Il dit, le Christ ici montre, donc si vous calculez la dépense, supposons que vous bâtissez quelque chose, une tour, il dit, pour voir si vous avez de quoi, quoi, de quoi, quoi. De quoi la commencer? Non. On peut toujours commencer quelque chose. Mais le Christ a dit, si vous avez de quoi la terminer. Alors, avant de vous lancer dans quelque chose, calculez la dépense pour voir si vous avez de quoi la terminer. Voilà. La même chose avec le baptême, la même chose avec le mariage, ou bien une vie de famille, n'importe quoi, n'importe quel projet. Si vous avez des idées dans les affaires, eh bien, faites ce que le Christ dit, calculez la dépense. Avez-vous de quoi terminer cette affaire? Ça demandera des sacrifices fantastiques, comme le Christ a dit, vous devez porter votre croix. Ça demandera peut-être des conditions que vos amis vous abandonneront. Tout ça, ça fait partie du jeu, pour ainsi dire. En fin de compte, tout ça, ça nous mène vers la persévérance. C'est beau, ça prouve que le Christ entend ce qu'il dit. Et le Christ nous montre que si nous voulons réussir, nous devons suivre ses exemples, et ses exemples sont clairs. Et le Christ lui-même nous a montré que c'est possible de faire. Voyez-vous, Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Le Christ est venu ici en tant qu'être humain, il a passé par les mêmes épreuves que vous et moi, et nous a montré que oui, c'est possible d'y arriver. C'est possible de persévérer. C'est possible de tourner la joue mettons, contre quelqu'un d'autre, dans le sens que si quelqu'un vous persécute, dit-il, montrez-lui l'autre jour. Autrement dit, vous devez aimer. Nous devons tous aimer nos ennemis. Voilà. Le Christ a fait preuve de ce succès. Et il a persévéré jusqu'à la fin. Prenez nos ancêtres, anciens Israël. Eux ont vu les promesses divines. Eux ont reçu les recommandations, la voie à suivre. Et Dieu avait montré à eux qu'écoutez, un jour vous arriverez dans le pays promis. Mais ils ne sont pas entrés dans ce pays promis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Ils ont voulu continuer à leur façon. Vous ne pouvez pas entrer dans le pays promis, selon la Bible, à moins que vous y entrez selon les conditions divines. Et l'une de ces conditions, c'est la persévérance. Les Israélites ont abandonné les commandements de Dieu. Ils sont détournés de Dieu. Autrement dit, l'alliance qu'il y avait entre eux et Dieu, c'était une alliance qu'ils n'ont pas respectée. Dans Hébreux chapitre 8, vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'Épître aux Hébreux que les gens lisent souvent les yeux fermés. Ici, vous avez ce que nous appelons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Malheureusement, beaucoup de gens, même des gens de l'Église de Dieu, confondent ces deux termes. Qu'est-ce que c'est que l'Ancienne Alliance? Et qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Alliance? Quelle est la différence? La seule différence, c'est que, voyez-vous, dans la Nouvelle Alliance, qui est fondée sur le même terme que la première, l'Ancienne Alliance, il dit, dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'aide directe du Saint-Esprit. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le Christ nous demande d'observer non pas seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Tandis que dans la première alliance, ou dans l'alliance que nos ancêtres ont reçue, Ils pouvaient seulement respecter la lettre de la loi, pas l'esprit de la loi. C'est ça la différence. Mais même encore, ils n'ont pas respecté la lettre de la loi. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans Hébreux chapitre 8, verset 7. Hébreux 8, verset 7. En effet, dit-il, si la première alliance, c'est justement ce que je vous dis, c'est d'obéir à Dieu, la lettre de la loi, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la loi, l'esprit de Dieu. Donc, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été remplacé. Le défaut dont toutes les questions ici, voyez-vous, c'est qu'ils n'avaient pas, ces gens-là, l'esprit de Dieu. C'est ça le défaut dont ils ont la question. Voici des tours, les choses arrivent, verset 8 toujours, du Seigneur, que je ferai avec la maison d'Israël, avec nous tous qui sommes maison d'Israël, une nouvelle alliance. Mais c'est quoi cette nouvelle alliance? Une autre alliance, c'est justement l'alliance de persévérer jusqu'à la fin. Regarde, notez-le. Pour les faire sortir, dit-il, du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Vous avez gardé le reste. Je vous en sûrement des idées ici. Donc, nous sommes comme l'ancien Israël, nous sommes sortis de ce monde, nous avons été appelés par le Christ, et maintenant nous savons que la nouvelle alliance, c'est-à-dire les mêmes lois que précédemment, mais que nous devons les respecter et dans la lettre et dans la loi. C'est ça, je répète, mes frères et mes sœurs et mes amis, la différence entre l'ancienne alliance, ou la première alliance, et la nouvelle alliance. Et pourtant, il y a des gens qui confondent. Ils pensent que la nouvelle alliance a mis fin aux lois divines. Mais c'est idiot. Comment est-ce que vous pouvez mettre fin à quelque chose qui est permanent? Comment est-ce que vous pouvez dire que quelque chose n'existe pas alors que Dieu dit que cette chose existe et vous devez la reconnaître, l'observer et dans la lettre et dans la loi. Si vous comprenez ceci, voyez-vous, vous comprendrez la Bible. Et vous ne chercherez pas à tordre les Écritures. Vous ne chercherez pas des excuses en disant, mais j'ai plus besoin d'observer le sabbat, d'observer la loi de Dieu, d'observer les commandements, ainsi de suite. Non. En tant que chrétiens, nous devons observer, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Lisez, je répète, le reste de Hébreux chapitre 8. Ça vaut la peine. L'apôtre Jacques, le frère du Christ, nous montre aussi la voie du succès. Succès dans cette espérance. Rappelez-vous, l'espérance est quelque chose que vous n'avez pas encore. La foi, c'est la certitude que vous l'avez déjà. Et la persévérance, c'est d'arriver au but. Donc, nous avons, nous, l'espérance de la vie éternelle. Et pour y parvenir, nous devons faire preuve de persévérance, quels que soient les obstacles. Ça, c'est la base. Alors, Jacques, chapitre 1. L'apôtre Jacques nous dit ceci. Encore très simple, très clair, mais ce sont des choses que nous devons vraiment mettre en pratique. La Bible est simple, mes frères et mes sœurs. Ce qui est vraiment difficile, c'est ce désir ou bien cette volonté de vouloir mettre en pratique ce que nous savons. De continuer à lutter, de persévérer jusqu'à la fin. Jacques chapitre 1. Voyez-vous, là encore, si la première alliance qui n'est plus, entre guillemets, valable aujourd'hui, comme disent certains, alors on n'aurait pas besoin de la nouvelle alliance. Mais comme j'ai dit, la première alliance est d'abord à observer la lettre de la loi. Et la nouvelle est celle d'observer et la loi, et la lettre de la loi, et l'esprit de la loi. Regardez Jacques. Jacques, qui est encore vivant après la mort et la résurrection du Christ, regardez ce qu'il écrit. Jacques 1, verset 25. Verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu, voyez-vous, la loi. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, Et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez-vous, c'est clair, la Bible vous dit, voilà comment nous pouvons nous détourner de la vérité par de faux raisonnements. Car dit-il, si quelqu'un, verset 23, alors, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, et quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Voilà la différence. Voyez-vous, si vous y êtes vraiment lancé, vous savez ce que c'est, vous persévérez. Non, vous dites non, je sais ce que je suis et ce que je serai, ce que je veux être. Mais celui, dit-il, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, voilà votre 10 commandements, dans la lettre et dans l'esprit, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre, en pratique, autrement dit, sera heureux dans son activité. Condition simple. Simple, oui ou non. Autrement dit, ce ne sont pas des conditions simples, mais ce sont des conditions simples à comprendre. Difficiles à observer, d'accord, je suis d'accord avec vous. Lorsque nous parlons des fruits de l'Esprit de Dieu, Galates chapitre 5, avez-vous jamais pris le temps d'étudier chaque fruit de l'Esprit mentionné dans Galates chapitre 5? C'est intéressant car, évidemment, chaque fruit mentionné ici nous montre un peu le caractère de Dieu et comment nous devons nous croître dans la grâce et la connaissance. Car nous avons tous besoin, pour pouvoir arriver au but, nous devons mettre en pratique les œuvres de la loi et dans la lettre et dans l'esprit. Mais nous devons mettre en pratique et faire preuve du fruit de l'esprit. Ces fruits de l'esprit qui sont mentionnés dans Galates. Chapitre 21. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, vraiment, à genoux, étudiez chacun de ces fruits mentionnés ici, et vous verrez que chacun d'eux demande la persévérance. Notez-le. Verset 22, Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Regardez voir aujourd'hui autour de vous. Ce que les gens appellent l'amour, c'est pas l'amour, c'est la sexualité, et ça ne dure pas. Voilà pourquoi vous avez tellement de divorces. Vous avez plus de divorces que de mariages. Les familles se brisent. Parce que l'amour qu'ils ont, c'est pas permanent, il n'y a pas de persévérance. Un mariage n'est jamais facile pour qui que ce soit. Mais si on persévère jusqu'à la fin, avec l'attitude de donner, d'aider, d'aimer, de continuer, alors là, vous avez une réussite et votre mariage sera heureux. Mais un mariage demande persévérance. Donc, l'amour dans n'importe quel aspect demande l'espérance, autrement dit, ou bien la persévérance, autrement dit, ça ne sera pas amour. La joie, là encore, la joie doit être en permanence si vous connaissez le but de la vie. Et encore la persévérance. Certes, vous aurez des tragédies, mais si vous avez face à ces tragédies, la compréhension absolue que vous êtes appelé pour entrer dans le royaume de Dieu, votre joie doit être permanente. Eh oui. Donc, vous devez persévérer en cela. La patience, évidemment, c'est déjà normal. On ne peut pas avoir de patience sans persévérer. Ou la paix. Voyez-vous, là encore, il est très facile de blâmer quelqu'un. Nous avons tous l'habitude de blâmer quelqu'un d'autre si nous échouons dans une entreprise, dans un projet. Il est facile, oh, vous savez, j'aurais pu réussir si, n'a pas beaucoup de sens. C'est une excuse que tout le monde peut la donner. La seule façon de réussir, c'est oublier des excuses, aller de l'avant, persévérer, malgré les obstacles. Enfin, on n'a qu'à parler de la bonté, la fidélité, la douceur. Tout cela demande la persévérance. Autrement dit, ce serait des choses temporaires et par les moyens des choses temporaires, vous n'y arriverez pas. Nous devons nous vraiment faire preuve de compréhension, faire preuve, savoir que l'espérance est absolument nécessaire dans chacun des fruits mentionnés ici dans Galates. Nous vivons dans un monde, mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, qui est aujourd'hui gouverné par Satan le diable. La Bible dit clairement que Satan est le dieu de ce siècle. Dieu l'a permis. Satan ne pourrait absolument rien faire si Dieu ne le permettait pas. Mais Dieu, dans sa sagesse, a permis à Satan de séduire le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sous la séduction satanique de par le monde. Et c'est Satan encore qui est le roi, entre guillemets, de ce monde. Comment est-ce que nous pouvons lutter contre Satan? Certes, nous comprenons la vérité, nous avons la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, mais comment est-ce que nous pouvons lutter? Apocalypse chapitre 12. Vous pouvez voir comment d'abord Satan agit. Une fois que vous connaissez ses tactiques, sa façon de faire les choses, vous pouvez lutter contre lui. La plupart du temps, se moque de Satan. Il pense que Satan n'existe pas. Et c'est précisément la force de Satan. Lorsque vous ignorez quelque chose, c'est quelque chose, tout d'un coup, devient pour vous quelque chose qui n'existerait pas. Alors, c'est quelque chose qui a une force, je dirais, de vous séduire. Si vous pouvez vraiment être convaincu que Satan existe, et c'est vrai, et qu'il est là de par la permission divine, et que vous avez les outils nécessaires pour lutter contre Satan, vous êtes victorieux. Vous pouvez persévérer, car Satan ne pourra jamais avoir le dessus. Ici, nous voyons ce que Dieu dit, verset 9, Apocalypse 12. Satan fut précipité sur cette terre, celui qui séduit toute la terre, voyez-vous. Ensuite, ce même Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va, je prends encore verset 10, je prends en partie, maintenant dit-il le salut est pour et arriver à la puissance, etc. Et Satan accuse les frères devant le trône de Dieu. Comment est-ce que Satan peut accuser? Je paraphrase, mais c'est l'idée. Comment est-ce que Satan peut vous accuser? Ou bien m'accuser? Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît mon cœur. Satan peut nous inciter les uns les autres à nous accuser. Et ce faisant, il gagne. Donc voilà les tactiques, la façon d'agir de Satan. Méfiez-vous d'accuser les uns les autres. Allez dire, écoute, faisons la paix. Agissez en tant que chrétien. Si vous le faites, Satan n'aura pas de pouvoir sur vous. Ce sont des règles faciles et difficiles en même temps. Mais tout cela demande la persévérance. Vous pouvez peut-être faire une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça traîne, vous direz, oh, je n'en peux plus. Dès que vous dites, je n'en peux plus, c'est fini. Vous avez l'échec devant vous. Vraiment, dans n'importe quel projet, si vous dites, je n'en peux plus, vous dites, j'ai échoué. Et vous ne pouvez pas échouer dans ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas échouer en ce qui concerne notre arrivée au but. Donc faites preuve dans les autres choses, des petites choses, dans votre travail, etc., pour pouvoir apprendre comment ne pas abandonner lorsqu'il s'agit de votre but final, de votre réussite dans la voie que Dieu nous montre. Éphésiens chapitre 6. Nous voyons ici comment parvenir au but, comment persévérer, sans jamais abandonner. La Bible, je répète, nous donne les moyens pour y arriver. Dieu ne nous demande pas quelque chose sans nous montrer la façon de parvenir à la réussite. Éphésiens 6, au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Voyez-vous, c'est toujours dans le Seigneur. Vous n'avez pas de force, moi je n'ai pas de force, mais le Seigneur a la force. Par sa puissance, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui, Dieu nous donne des armes. Voilà la force, voilà votre force. Ce ne sont pas vos forces à vous ou bien vos talents qui vous permettront de réussir, de persévérer. L'idée de la force de toutes les armes de Dieu d'utile afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, verset 11. Éphésiens 6, 11. Nous n'avons pas, dit-il, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ensuite, il parle au verset 13 des armes de Dieu. Et quelles sont ces armes? Regardez voir, verset 14. Ayez, dit-il, vos reins, à vos reins la vérité, c'est-à-dire la Bible, pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, toujours justice divine. Verset 15. Mettez pour chaussure, dit-il, à vos pieds le zèle, voilà, le zèle qui nous est indispensable pour persévérer dans l'Évangile. Prenez par-dessus tout utile le bouclier de la foi. On parlait de la foi. Indispensable pour la persévérance. Et ensuite, dit-il, ayez pour casque le salut, cette espérance, l'épée de l'esprit, et ainsi de suite. Ensuite, verset 18, faites toutes sortes de prières et de supplications. Là, je vais m'arrêter un peu, parce que ça m'intéresse. Particulièrement, voyez-vous, les conditions que l'apôtre Paul nous montre, et aussi la façon d'y parvenir, il mentionne la prière. Combien de fois avez-vous abandonné une prière parce que vous n'avez pas reçu de réponse? Je vous pose la question. Vous demandez quelque chose avec foi, avec espérance, et vous attendez. Après quelque temps selon vous, ça n'arrive pas, vous abandonnez. Vous dites, Dieu ne m'a pas exaucé. Dès ce moment-là, c'est l'échec. Vous n'avez pas persévéré. Nous devons persévérer dans la prière. Et oui, la prière demande la persévérance. Notez-le. Dans Luc chapitre 18, le Christ nous donne un exemple. Un exemple intéressant car quelque chose que nous comprenons tous. Il parle de la prière. Et il dit comment prier. Comme je dis souvent, vous demandez à Dieu quelque chose. Et lorsque vous n'avez pas la réponse, vous dites, oh bien, Dieu ne veut pas me la donner. Peut-être. Mais d'autre part, si votre demande est correcte, si votre demande est juste à ses yeux, dans ce cas-là, n'abandonnez pas. Demandez avec foi, avec persistance, mais soyez sûr que ce que vous demandez est conforme à sa volonté. Si tel est le cas, n'abandonnez jamais. C'est ce que Luc nous montre ici dans son évangile, chapitre 18. Jésus, dit-il, leur adressa vers chapitre 18, verset 1, Luc, leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En bon français, ne pas abandonner. Autrement dit, persévérer. On parle de prière. Il y avait-il dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, donc un infidèle, qui n'avait pas d'égard pour quelqu'un, pour personne. Donc, ce juge-là, donc, était là, et il y avait aussi, dit-il, dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. Ici, la veuve est présentée comme quelqu'un qui est fidèle, qui demande vraiment à voir la justice divine. Mais l'autre, le juge, un homme infidèle, mettons, non-croyant, ne veut pas y entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme qui ne croit pas en Dieu, un juge ici, et qui ne veut pas faire ce qu'il juge, tout d'un coup il faiblit. Pourquoi faiblit-il? Il a dit, verset 4, Ensuite, dit-il, parce qu'il était fatigué d'entendre cette femme de plaider, toujours sa cause de l'embêter, il dit, « Quoique je ne crains pas Dieu, dit-il, et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, dit-il, je lui ferai justice. » Autrement dit, ici, le juge n'agit pas par bonté, par amour, mais parce qu'il ne veut pas être embêté par cette femme. Alors, le Christ prend ici un exemple tout à fait physique, tout à fait, je dirais, charnel, tout à fait humain, pour nous montrer que nous devons, nous, avoir cette persévérance dans nos prières, comme la veuve. Il dit, le Seigneur, dit-il, ajouta verset 6, 7, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui craignent, ou qui crient à lui jour et nuit? Et non, dit-il, il ne tardera pas. Ensuite, il ajoute, mais le Christ, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Voilà pourquoi, je répète, souvent nos prières ne sont pas exaucées. Nous abandonnons avant de recevoir la réponse. Nous arrivons très proche, très près du but, nous abandonnons. À quoi bon commencer une course et vous êtes tout près de la ligne d'arrivée et vous abandonnez. Cette arrivée, vous savez, dans les courses, physiquement parlant, et dans notre vie à nous. Alors que nous sommes tout près de la réussite, nous abandonnons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'échec. Non, dans vos prières, soyez sûr que vous êtes fidèle à Dieu. Je parlais il y a quelques instants du mariage. Un vrai mariage ne peut seulement réussir que si l'homme et la femme persévèrent dans l'engagement qu'ils ont pris. Ah oui, c'est un engagement. C'est une promesse. Notez dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, Paul nous recommande comment vraiment avoir les attitudes nécessaires dans le mariage les uns pour les autres, et il nous montre les obligations, les responsabilités de chacun des couples dans le mariage. C'est pas facile. C'est pas facile pour une femme, Éphésiens 5, verset 22, de dire, bon, je vais suivre mon mari en Christ. Oui, même si c'est en Christ, c'est pas facile. La femme ne veut pas obéir à son mari. Et c'est pas facile pour un homme de respecter sa femme, d'aimer sa femme comme le Christ nous a aimés. Et pourtant, regardez-moi que le Christ nous a aimés, nous aime comment? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Nous sommes absolument rien. Nous sommes pécheurs, nous ne méritons que la mort, et le Christ est mort pour nous. Alors, prenez cette différence. Autrement dit, le Christ a donné sa vie pour ce qui est vil et mauvais en ce bon monde. Comment ne voulez-vous pas que dans le mariage, que l'homme aime sa femme, qui est quand même une partie de sa vie? Là encore, je vous n'avez qu'à lire le reste. Mon intention est de vous montrer les grandes lignes dans ce message. Tâchez de comprendre que pour réussir dans votre vie, mes frères et mes sœurs, vous devez faire preuve de persévérance. Pour réussir dans votre mariage, vous devez faire preuve de persévérance. Rappelez-vous le premier jour de votre mariage, votre premier engagement. Qu'est-ce qui se passe? Après quelque temps, vous voyez les faiblesses de l'un de l'autre et vous changez d'idée. Ce n'est plus le même mari, ce n'est plus la même femme que vous avez connue. Donc, vous abandonnez. De ce fait, à nouveau, vous ne persévérez pas dans quelque chose que vous avez commencé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui de par le monde. Et c'est triste. C'est triste, car nous pourrions tous être heureux en ce bon monde. Nous pourrions vivre dans un monde qui serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable. Mais nous n'y arriverons pas, car, voyez-vous, nous n'avons pas assez de foi en Dieu. Nous n'avons pas ce désir de persévérer. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. dans ce chapitre-là, vous avez un chapitre, je dirais, de promesses et aussi comment arriver au but, car c'est un chapitre spirituel, le Romains chapitre 12. Ici, vous avez en quelque sorte le sommaire, pour ainsi dire, le résumé du sermon sur la montagne. Car Paul groupe en quelques mots le sens, la base même du sermon sur la montagne. Regardez ce qu'il dit, Romains chapitre 12. Il nous montre donc les qualités chrétiennes, il dit verset 9, que l'amour ou la charité soit sans hypocrisie. C'est facile à comprendre. Souvent, nous faisons preuve d'amour avec hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Voilà comment on peut arriver. Mais tout cela demande la persévérance. Par amour fraternel, dit-il, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ensuite, par honneur, usez de prévenance réciproque. Autrement dit, tâchez de comprendre le besoin de quelqu'un d'autre. Allez de l'avant, faites votre part. Servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Donc, commençons. L'espérance n'est pas espérance à moins que nous fassions preuve de persévérance. Donc, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient, qui demande persévérance dans l'affliction. Persévérez. Verset 12. Persévérez dans la prière. C'est exactement ce que nous avons vu dans Luc, chapitre 18. Persévérez dans la prière. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, etc. Autrement dit, dans tout ce que vous voyez, dans tous les versets que vous voyez toujours la même recommandation. N'abandonnez pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Dieu de vous aider. Et Dieu vous aidera. Dieu est toujours là pour vous aider. Alors, en fin de compte, où en sommes-nous? Nous sommes appelés, vous et moi, pour entrer un jour dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêchera d'y entrer? Notre manque de persévérance. Une fois que vous comprenez la vérité, une fois que vous saisissez l'importance, n'abandonnez jamais. Voyez-vous, je parlais des Israélites. Ils ont abandonné. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Regardez les premières églises mentionnées dans Apocalypse chapitre 2, verset 3. Chacune de ces églises, l'église de Dieu, a eu des difficultés. Et Dieu nous montre dans chacune d'elles, dans les recommandations qu'il donne à chacune d'elles, écoutez, persévérez. Détournez-vous des péchés que vous commettez, des fautes que vous commettez, persévérez. Dans Apocalypse chapitre 2, je pense qu'il faut prendre au moins un ou deux versets ici. Oui. Je prendrai vers chapitre 2, verset. Il est question ici de l'église de Éphèse. Regardez ce que Dieu dit, par exemple. Verset 2, Apocalypse 2, 2. Il dit, je sais que, il parle maintenant à l'église même d'Éphèse, tu ne peux pas supporter les méchants, dit-il, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, etc. Ensuite, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Verset 4. C'est quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, ce membre de phrase est important dans votre vie et dans la mienne. Votre premier amour, c'est votre appel, le Christ vous a donné pour appeler dans son royaume. Le Christ dit, tu as écouté, tu as compris, tu t'es détourné de moi. Tout au long de ces chapitres, chapitre 2, chapitre 3 d'Apocalypse, lisez encore attentivement, vous verrez que le Christ nous donne les recommandations nécessaires pour persévérer jusqu'à la fin, pour réussir. Ensuite, juste avant de terminer, laissez-moi encore citer Apocalypse chapitre 3. Ici, vous avez des recommandations que Dieu donne à son Église qui lui est restée fidèle. Apocalypse 3, verset 7. Il dit, « Voici, dit-il maintenant à l'église de Philadelphie, ce que dit le Seigneur. » Il dit, « Je connais tes œuvres. » Verset 8. Apocalypse 3, 8. « Tu n'es pas puissant. » Je paraphrase. « Tu n'as pas de force. » Il dit, « J'ouvre devant toi une porte, personne ne peut fermer, etc. » Ensuite, il donne une recommandation. Il dit, parce que, verset 19, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Allez voir ça. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je garderai aussi à l'heure de la tentation. 3, je vais revenir, dit-il, afin que tu sois protégé, etc. Voyez-vous, ensuite il dit, retiens ce que tu as, que personne ne le prenne. C'est toujours la même chose. J'ai commencé ce sermon en vous disant, écoutez, nous devons savoir que nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Nous devons voir ici la même chose, que nous devons continuer à persévérer pour être sauvés. En fin de compte, autour du Christ, qui sont ceux qui seront sauvés? Acte, non, Apocalypse, chapitre 14. Voyez-vous, depuis le commencement jusqu'à la fin, sont toujours les mêmes instructions, les mêmes conditions. La persévérance qui est indispensable pour notre salut. Il est question ici du retour du Christ, de la récompense, de ceux qui seront sauvés. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance. Regardez voir. La persévérance des saints. Saints, ce sont ceux qui sont chrétiens, les véritables chrétiens. Qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et de Jésus. Donc, ceux qui sont sauvés en fin de compte, ce sont ceux qui gardent la parole de Dieu, qui persévèrent dans leurs efforts. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés par Dieu pour servir. En servant, nous serons sauvés en fin de compte. Nous sommes appelés pour persévérer jusqu'à la fin, malgré et contre toutes les attaques de Satan ou de toute adversité. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Ayez toujours les yeux sur le Christ, en sachant que Dieu vous aime et qu'il veut que vous puissiez arriver au but. Mais cela demande absolument la persévérance de votre part.